Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je reprends les commandes de notre rendez-vous sur Radio Sepharad. Un programme que je réaliserai généralement depuis Jérusalem, où je réside la plupart du temps, bien que je me trouve actuellement à Madrid, en plein été et en pleine opération Bordure Protectrice. Bien que présent en Israël en esprit, c'est donc maintenant à distance que je reçois les nouvelles de ce qui se passe dans le pays au fil des secondes, des minutes, des heures et des jours. Pour combler cette distance, lorsque je pensais à ce premier rendez-vous nouvelle formule, j'ai immédiatement pensé à interroger Eliana Gurfinkel, une amie qui vit à Jérusalem et que j'ai en ce moment au bout du fil. Eliana, bonjour.
Bonjour Pascal, bonsoir.
Bonsoir, effectivement. Comment se tutoie à Jérusalem? Je vais continuer à le faire tout au long de cette interview. Est-ce que tu es d'accord?
Il n'y a pas de problème. Continuons à nous tutoyer.
D'accord. Alors, tu es née en France, à Paris, n'est-ce pas?
Et, tout à fait.
Et tu as fait ton aliyah en 2005. En Israël, tu as terminé une licence en histoire et tu es en train maintenant de finir ta maîtrise à l'université Bar-Ilan. Et tu as aussi travaillé pendant ce temps à la Knesset.
Tout à fait.
Avant de passer à une vision plus profonde de la situation, j'aimerais tout de suite que tu nous livres ton expérience au quotidien. Tu vis à Jérusalem, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Et on a vu ces jours-ci que la ville sainte, comme le reste du territoire, n'était pas épargnée par les tirs de missiles, accompagnée comme il se doit des sirènes pour se mettre à l'abri. Comment tu vis ça, toi, au jour le jour?
Bah écoute, Pascal, c'est quelque chose qui, je pense, me surprendra toujours. Quand tu es en train de faire quelque chose, tu as tes pensées, tu es préoccupé par quelque chose d'autre, et d'un seul coup, il y a une espèce de son horrible qui te détruit ta concentration et ton moment, et qui rappelle les instincts les plus vitaux qui sont la survie. Donc tu te mets à courir et puis tu espères, bien qu'étant à Jérusalem et sachant qu'on a une minute et demie pour se mettre à l'abri avant que le missile n'arrive au-dessus du ciel de Jérusalem, mm-hmm. C'est quand même une peur qui te prend au ventre et tu essaies de tout faire pour te protéger. Alors bien entendu, à Jérusalem, on a eu moins d'alertes que dans d'autres endroits, mais je dois dire que c'est toujours difficile de se sentir à ce point en danger. Et j'aimerais juste raconter comme ça que ma grande sœur, elle a un petit garçon. Et lors de la première alerte qui s'est déroulée un soir à 10h du soir sur Jérusalem, la première alerte sur Jérusalem, elle a tout simplement, mon neveu qui était en train de dormir, elle l'a sorti de son lit. Et puis comme elle habite dans un endroit où ils sont trop loin d'un abri, alors ils doivent se mettre derrière le mur qui est au centre de la maison. Donc elle a pris le petit, elle l'a mis par terre et elle s'est allongée sur lui. Et lui, il ne comprenait pas ce qui s'est passé parce qu'il s'était au milieu de la nuit et il s'est mis à pleurer. Mmh. Pourquoi on l'avait réveillé? Et quand ma soeur m'a raconté ça, quelques minutes après l'alarme, puisqu'on s'est appelé pour vérifier que chacune allait bien, je dois dire que ça m'a fait beaucoup de mal et j'en ai eu un poids dans le cœur, dans le ventre, parce que c'est pas des choses que je souhaite à un petit garçon de moins de 2 ans de vivre.
Oui, d'accord. Effectivement, oui. Toi, personnellement, aux endroits où tu vis, où tu manges, où tu travailles, est-ce que tu as des refuges à proximité ou est-ce que tu dois faire, ou est-ce que tu dois trouver des abris de fortune?
Là où je travaille, on a un abri au bureau. À la maison, c'est la cage d'escalier. Donc, il faut sortir et se mettre dans la cage d'escalier, ce qui est a priori rapide. La difficulté, elle se trouve quand on marche dans la rue. Mm-hmm. Quand on marche dans la rue, ça dépend où est-ce qu'on se trouve dans la rue. Si on se trouve dans des endroits... moi, par exemple, en général, je rentre à pied du travail. En ce moment, j'hésite. Parce que sur la route, il y a un moment où je longe un long jardin. Mm-hmm. Et je suis je longe le jardin botanique de Jérusalem. Et c'est un jardin qui, donc, sur, je ne sais pas moi, plusieurs centaines de mètres, c'est juste la bordure du jardin. Et donc, si je devais, c'est une marche de, je sais pas moi, de 10 minutes le long de la bordure, mais le faire en ce moment, alors que sur ces 10 minutes, il n'y a aucun abri ni à droite ni à gauche, mm-hmm. je ne me mets pas en danger, donc je ne le ferai pas.
Wow. Ouais, effectivement, oui. Tu as évoqué cette anecdote poignante de ta grande sœur, de son enfant. Est-ce que tu as d'autres membres de ta famille ou des amis, des proches, des connaissances qui vivent ailleurs en Israël, notamment plus au sud?
Oui, alors j'ai beaucoup d'amis qui... Il y a beaucoup de Français qui habitent dans les villes du sud qui sont Ashdod et Ashkelon. Et dans ces villes-là, alors eux, ils sont canardés, mais toute la journée. C'est vraiment... tu sais, je ne sais pas si tu as entendu, j'imagine que oui, il y a une application
Oui,
sur les téléphones qui
la
permet de
Red
savoir en
Alert.
permanence dès qu'il y a une alerte. Et je dois dire que mon téléphone, pour tout ce qui est des alertes dans la région sud et dans les villes comme Ashdod et Ashkelon, c'est vraiment toute la journée. En plus, nous, à Jérusalem, les alarmes nous ont réveillés, enfin, ne nous ont jamais vraiment réveillés très tôt le matin, mais dans ce qui est du cas de Tel Aviv ou bien d'Ashdod et Ashkelon, il y a eu des alarmes très tard le soir ou bien le matin très tôt, à 6 heures du matin, se faire réveiller. Je dois dire que c'est la première fois cette année, bon, bien entendu, on a passé d'autres moments où il y avait des sirènes, et il y a un an et demi, il y avait déjà eu une opération, on a déjà été bombardé par le sud, par Gaza, pardon. Mais je dois dire que c'est la première fois que je me rends compte à quel point il faut faire attention aux enfants, et ça peut avoir un impact sur les enfants, que ce soit d'abord un danger, mais aussi le traumatisme que ça peut représenter. Et cette année, pour la première fois, je pense beaucoup à ça chaque fois qu'il y a une alerte. Et je dois dire que ça m'énerve beaucoup de savoir qu'on a autant d'enfants dans notre population, dans notre pays, qui ne sont pas à l'abri, justement, des traumatismes causés par des missiles envoyés en permanence sur eux. Et je trouve que c'est... Je ne sais pas, je pense que nous, en tant qu'adultes, on a du recul, on comprend... On a une conception de gens qui nous veulent du mal, et on peut comprendre, mais un enfant qui, lui, ne voit que des gens, toute personne autour de lui sont des personnes aimantes, je pense que ça doit être très, très dur pour un enfant de vivre ces choses-là. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup sur Facebook ou sur des sites des conseils donnés par des psychologues pour les parents pour essayer d'expliquer aux enfants, ou même des dessins animés pour expliquer aux enfants ce qui se passe et essayer justement de faire passer ce moment difficile de la meilleure manière possible.
Oui, je pense effectivement que ce que tu nous racontes est très important dans le sens où, dans la presse et surtout à l'étranger, on est beaucoup dans les chiffres et dans les résultats comptables de décès, malheureusement, d'une part, et d'absence de décès, sauf un hier en Israël. Mais ça fait partie également les traumatismes des conséquences de ce conflit, de cette opération. Et il est important aussi de le souligner parce que ce n'est pas bénin, c'est très important. Et par rapport à ça, justement, en abordant la façon dont on parle de cette opération à l'étranger, je sais que toi, tu es très en contact évidemment avec la France et où tu as encore de la famille et des amis. Qu'est-ce que tu leur racontes à eux, par rapport à ce que tu vis?
Moi, je leur raconte ce que je vis, mais à nouveau, Jérusalem, on n'est pas un endroit où on souffre trop, entre guillemets. On n'a pas vraiment des alertes tous les jours, du tout. Mais bien entendu, je leur raconte ce que je vis. J'essaye de pas non plus, par exemple, ma famille proche, mes parents, j'essaye de pas tout leur dire parce que on doit, je n'ai pas envie de les affoler. Mais pour moi, c'est important d'expliquer ce qui se passe. Et aussi, étant donné que la presse française, en tout cas, prend tellement de positions et très souvent ne raconte que la moitié des faits, ne racontant que, par exemple, de toute façon, c'est simple. En Israël, depuis qu'on a Dôme de fer, alors oui, l'État d'Israël a développé des missiles qui protègent ses habitants. Le Hamas ne fait pas ça. Le Hamas ne cherche pas à protéger les citoyens de Gaza. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a beaucoup plus de décès du côté de Gaza, et la presse française se fait un plaisir de ne dire que ça, de dire juste le nombre de défunts du côté arabe, et ne mentionne même pas le nombre de roquettes qui sont tombées en Israël depuis le début des opérations.
Oui. Alors ça, c'est par rapport aux gens que tu connais qui sont sensibles à la réalité en Israël et à la réalité du monde juif. Est-ce que parfois tu te sens poussé, encouragé à expliquer les mêmes choses à des gens qui ne sont pas israéliens et qui, a fortiori, ne sont pas juifs non plus, en France notamment? Est-ce que ça t'arrive?
Eh bien, écoute, j'ai écrit un texte plutôt en prose qui raconte, entre guillemets, l'histoire de ces pauvres sirènes qui étaient censées ne plus jamais marcher et être à la retraite et qui, dans le sud aujourd'hui, sont obligées de s'époumonner en permanence. Et c'est un texte qui est en fait, qui est un texte quelque part n'est pas très dur puisqu'on ne parle pas d'une réalité sanguinaire, mais on parle juste d'une réalité avec entre guillemets un petit sourire en disant les pauvres, ces sirènes qui se doivent de marcher en permanence en ce moment. Et c'est un texte que j'ai envoyé à beaucoup d'amis ainsi qu'à des amis qui ne sont pas juifs. Et mes amis non juifs qui n'habitent pas en Israël, qui ne sont pas juifs, ont beaucoup apprécié parce que ça leur a permis de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et ensuite, ils m'ont envoyé des mails et en général, j'ai répondu et j'ai expliqué ce que nous vivons. Bien entendu, moi, je me refuse de commencer à faire des analyses politiques ou stratégiques parce que je comprends certaines choses, mais je n'ai pas toutes les cartes entre les mains. Donc, je refuse d'attaquer à droite, à gauche des personnalités au sein du gouvernement parce que je ne sais pas, je suis sûre qu'elles elles ont beaucoup plus d'informations que moi. Donc, je ne peux pas dire ce que Benjamin Netanyahu fait, c'est juste ou c'est faux. Donc, je ne dirai pas ça. Mais ce que je peux, moi, expliquer à mes amis, je peux leur expliquer ce que nous vivons, je peux leur expliquer nos peurs parce que je pense qu'il y a beaucoup de peurs ici, un facteur très important qui est la peur et et un facteur de survie, une simple sensation, une volonté de survivre et de passer ce mauvais moment. Et que, si Dieu veut, dans quelques jours, dans quelques heures même, on arrive à un moment où le sud est protégé, enfin, le sud, la moitié du pays est protégée et on n'est plus à avoir peur, pour nos proches et nos familles.
Oui, sans entrer justement trop en profondeur dans l'analyse, je ne vais pas te le demander de le faire, mais toi, peut-être avec ton recul d'historienne, comment est-ce que tu envisagerais une solution éventuelle à long terme avec Gaza, avec le Hamas?
Moi, ce que je vois, c'est que je vois d'abord une population gazaoui qui souffre beaucoup de la place du Hamas. Une des raisons pour lesquelles le camp de droite en Israël cherche à continuer d'avoir des positions au sein et de la Judée-Samarie et à l'époque au sein de Gaza, c'était pour empêcher que des milices terroristes islamique, comme le Hamas, qui est un petit frère des frères musulmans, prennent le contrôle et transforment une zone résidentielle en comment dire, en tremplin pour le terrorisme. Ce que je vois, c'est que c'est d'analystes avaient prévu, c'est-à-dire le jour où on sortira de Gaza, Gaza deviendra la base afin de la base des missiles qui toucheront tout le pays, ça s'est réalisé. J'ai du mal à croire que quoi que fasse Israël, ces gens-là, ces milices terroristes accepteront le fait qu'Israël existe, l'existence d'Israël,
Oui.
et ne chercheront pas à détruire Israël. Je pense qu'ici, on ne parle pas, ce n'est plus un discours de est-ce qu'on peut vivre l'un à côté de l'autre. Ici, c'est un discours où le Hamas dit tout simplement, tant qu'Israël ne sera pas rayé de la carte, nous continuerons à attaquer. Alors, avec cette perspective, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer que demain, on aura une relation de paix avec Gaza. Je souhaite de tout mon cœur que la population gazaouine réussisse à faire tomber
Le régime.
le gouvernement du Hamas, mais a priori, on est parti dans une mauvaise direction, en particulier quand le président de l'OLP, Mahmoud Abbas, il y a quelques mois, a décidé de
signer un accord,
d'avoir un accord de paix et en fait de créer un gouvernement d'union nationale dans lequel il y aurait et des membres du Hamas et des membres de l'OLP. Donc, parti dans cette direction, personnellement, j'ai peu d'espoir. Parce que je pense qu'il faut aussi, avec à nouveau une perspective historique, le Hamas n'a jamais voulu que l'État d'Israël existe. Donc je ne vois pas pourquoi demain il déciderait de finalement laisser exister.
Très bien, merci pour cette analyse que finalement tu as réussi à ébaucher. Je t'en remercie. Par rapport à la France, on s'aperçoit que plus le conflit se prolonge, plus les appels à manifester contre Israël se multiplient dans le monde, et en Europe et en France en particulier. Es-tu particulièrement préoccupé par la façon dont se déroulent ces manifestations, et notamment en France dimanche dernier? Il y a eu de grandes échauffourées qui ont éclaté aux portes d'une synagogue. Comment est-ce que tu vois ça?
Moi, je suis très, très inquiète pour ce qui se passe. En Europe, il y a une importation du conflit qui est démesurée. On a d'un côté une population musulmane d'origine, en général originaire d'Afrique du Nord, qui s'identifie complètement aux Palestiniens. Et dans cette identification, pour eux, un Israélien, c'est un juif, et donc il faut tuer du juif. Les appels au meurtre qui ont été faits dimanche dernier dans la capitale parisienne, c'est quelque chose de terrible. Moi, je suis très inquiète parce que j'ai pas l'impression que le gouvernement cherche à faire quelque chose. On a eu donc 200 personnes qui ont été, qui se sont réfugiées dans une synagogue et qui ont été attaquées par plus de 400 personnes qui avaient des haches et des couteaux et qui criaient mort aux juifs. La police n'a intervenu de façon assez faible et n'a mis en examen que 8 personnes. Donc 8 personnes sur 400 personnes qui hurlent mort aux juifs, à mes yeux, c'est très faible. Et je pense surtout que ce qu'on est en train de voir, ce n'est que le haut de l'iceberg d'une situation qui est folle, qui est d'une population musulmane qui ne se sent pas française, qui ne reconnaît pas les valeurs de la République et qui donc se permet de scander dans Paris des choses que la République française n'aurait jamais acceptées.
Oui, justement, par rapport à ça, le CRIF, le comité représentatif des institutions juives de France et d'autres associations ont demandé que soient carrément interdites ces manifestations et notamment... Certaines sont prévues ce week-end à Paris et dans d'autres villes. Et il est possible que le gouvernement suive ces recommandations et que ces manifestations soient interdites. Ce n'est pas sûr encore, mais penses-tu que ce serait la meilleure solution? Ou est-ce que ce ne serait pas encourager la notion de victimisation dont se targuent souvent les associations pro-palestiniennes ou les Palestiniens eux-mêmes?
Écoute, je vais te dire, d'un côté, oui, c'est très problématique parce qu'on d'interdire ce genre de manifestation, ce serait presque censurer soi-disant une voix pro-palestinienne. Mais si, justement, il faut l'interdire parce que ce que l'on voit, ce n'est pas une voix pro-palestinienne. Ce n'est pas nous ne sommes pas face à des gens modérés. Nous sommes face à des gens qui hurlent aujourd'hui dans les rues de Paris. Nous sommes tous des Mohamed Merah. Mohamed Merah qui, à Toulouse, en 2012, a assassiné de sang-froid tout d'abord 3 soldats français et ensuite 4 juifs toulousains, dont 3 enfants. Des gens qui scandent « Nous sommes tous des Mohamed Merah », c'est un devoir de la République de leur empêcher d'être dans les jeux et de scander un message pareil. Ici, on parle d'une incitation à la haine. Si déjà on parle d'incitation à la haine, j'aimerais juste faire remarquer que le soi-disant théologue Tariq Ramadan, sur sa page Facebook, incite à la chasse aux juifs et à la haine du juif. Je dois dire, et non seulement ça, mais les commentaires qui font... les gens qui écrivent des commentaires pour essayer de lui répondre leurs commentaires, et si leurs commentaires sont un tout petit peu pro-israéliens, ils sont automatiquement effacés. On a devant nous, à chaque fois qu'il y a un article un article qui parle du conflit, que ce soit dans Le Figaro, Le Monde ou quoi que ce soit, on a tout de suite des appels à droite, à gauche. Malheureusement, Hitler n'a pas fini son travail. On est en train de descendre une pente vertigineuse et il est temps d'agir de façon radicale si on ne veut pas permettre en fait un discours en France qui soit un discours complètement antisémite et qui incite à la haine d'Israël et à la mort aux Juifs.
Bon, ben nous verrons quels sont les prochains déroulements. Moi, pour le moment, je te dis merci beaucoup pour ton intervention. C'était très utile et très instructif. Et je te remercie. Shabbat shalom.
Avec grand plaisir. Shabbat shalom. Merci beaucoup.
Merci.